En commençant ce message, je vais faire un petit jeu avec vous. Je vais dire les premiers mots de versets très connus et vous allez dire la suite, OK? Je pense que même des gens qui fréquenteraient pas l'Église seraient capables, je crois, d'avoir quelques clés aussi, quelques mots. Donc, on y va ensemble, OK? Sortez votre belle voix, là, je veux vous entendre, OK? Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Je sais que vous la connaissez plus, mais on s'arrête là. Vous êtes bon, OK? Prochain, ça, c'est dans Matthieu 6, 9 à 10. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de? Ouais, de toute ta pensée. Ça dépend des... Et ton? Yes, vous êtes bon. On l'a dans Matthieu, on a aussi dans Deutéronome. Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, ouais, bon, 29, 11. Mais là, celle-là, par exemple, je suis certaine que vous allez le savoir. Car Dieu a tant aimé le monde afin mais la vie éternelle. Et c'est quoi la citation, Jean? Jean 3:16, c'est un des versets de la Bible les plus cités en fait, et ça tombe bien parce qu'on est dans notre série sur l'Évangile de Jean. Dans un rapport de 2017 du magazine Christianity Today, c'est un des versets les plus populaires pour les mots de passe pour les utilisateurs en ligne. Je me suis dit, c'est une bonne idée d'avoir un mot de passe, un verset comme mot de passe parce que t'as des chiffres puis t'as des lettres. Fait que, bon, vous essayerez peut-être de hacker mon Wi-Fi si vous venez chez nous. Mais bon, non, ce sera pas ça. Il y a Martin Luther aussi, le grand réformateur protestant, qui appelait ce verset l'Évangile en miniature. C'est le fun, hein? Parce que ça résume ce que Dieu a fait pour le monde, en fait. Mais parfois, le problème avec ces versets-là que vous connaissez, qu'on connaît bien en fait ensemble, là, c'est qu'en les connaissant par cœur, des fois, on ne s'attarde plus vraiment à leur signification. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, nous attarder à ce passage tiré de l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Ça se passe durant cette rencontre entre Jésus et Nicodème, le chef religieux juif, et c'est à ce moment-là que Jésus enseigne ce qu'est la nouvelle naissance, et c'est le titre de mon message ce matin, « Comment naître d'en haut ». Comment naître d'en haut. Et mon message va être construit autour de deux points. Premièrement, comment naître, et deuxièmement, comment grandir. Comment grandir. Je vous invite à tourner avec moi au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, et je vous encourage, je fais une parenthèse de temps en temps, je sors ma petite parenthèse, apportez votre Bible à l'église, parce que on assimile mieux quand on voit les mots dans notre Bible. Vous allez l'expérimenter. Tu sais, des fois on dit « Ah oui, j'ai lu ça ». Tu vois la Bible dans ta tête, tu sais dans quelle page environ. Donc, essayez ce truc-là, apportez votre Bible, puis on va pouvoir vraiment intégrer bien les enseignements. Et moi, j'utilise la traduction Second 21, donc ça va être encore plus facile si vous lisez la même version que moi. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Seigneur, ce matin, on veut que tu te montres à nous tel que tu es. Seigneur, fais que tu puisses, par ton esprit, te révéler à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. On veut te voir comme tu es, on veut voir le monde comme toi, tu le vois, Seigneur. Je prie pour des décisions, que des décisions soient prises dans les cœurs ce matin. Ou au courant de la semaine, quand ce message va être écouté en ligne. Seigneur, porte un fruit incroyable, Seigneur, avec ce message qui est proclamé ce matin. Amen. Donc, lisons ensemble Jean 3, 1 à 3. Donc, ça commence au début du chapitre. Et je vais lire différentes parties de la conversation entre Jésus et Nicodème. Mais au fur et à mesure, je vais commenter, apporter des précisions et faire aussi ressortir des vérités importantes. Donc, c'est parti, verset 1. « Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus. » Et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais ici si Dieu n'est pas avec lui. » La semaine dernière, j'ai expliqué que les pharisiens, c'est une branche extrémiste, on pourrait dire, là, des groupes religieux juifs de l'époque. Et je vous ai aussi montré que les autorités les autorités juives n'aimaient pas Jésus, hein, on a vu ça ensemble. Et parce que Jésus se disait Dieu, fils de Dieu, en fait, parce qu'il était aussi une menace pour la structure religieuse de l'époque. Et c'est eux qui vont chercher à le tuer et qui vont réussir aussi, parce que c'est eux qui vont pousser finalement à crucifier Jésus. Mais au sein de ce groupe, nous voyons Nicodème qui s'approche de Jésus. C'est vraiment un pas de foi de sa part, on pourrait dire. Mais c'est important de souligner un détail, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean souligne que Nicodème est venu dans la nuit, il est venu de nuit. Donc, il ne s'est pas dévoilé non plus tout de suite comme étant un fervent croyant de Jésus. Non, il se cache un peu. Okay? Il y a des petites réserves. Lui, il a subi la pression sociale, Nicodème, ceux qui ont écouté le message de la semaine passée. Donc, il a succombé à la pression sociale. Il est allé voir Jésus de nuit. Donc, un peu pour se cacher. Et je vais revenir sur ce point-là à la fin du message. Mais Nicodème reconnaît aussi des éléments importants sur qui est Jésus. Si on regarde ce qu'il dit, nous savons premièrement que tu es un enseignant envoyé de Dieu. Et deuxièmement, que Dieu est avec toi à cause des signes miraculeux que tu fais. OK? Et tout ça, c'est vrai. Et c'est très bien que Nicodème ait reconnu ça en Jésus. Mais avec la réponse de Jésus, nous montre en fait que Nicodème comprenait pas exactement tout. Okay, c'est ce qu'on va voir après. Oui, il le reconnaît comme un enseignant envoyé de Dieu et approuvé par lui, mais Jésus, vous savez, est tellement plus que ça. En fait, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et ça, Nicodème ne le perçoit pas encore. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, verset 3, « Je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est comme si Jésus disait à Nicodème, « Ah ouais, vous savez ça sur moi, que je suis un enseignant envoyé de Dieu. En vérité, tu ne me vois pas vraiment. Tu ne vois pas vraiment le royaume tel qu'il est et tu ne me vois pas vraiment moi tel que je suis, en tout cas pas encore, parce que tu n'es pas né de nouveau. » Et un des voyages, je sors souvent ce voyage-là dans mes illustrations, mais un des voyages que j'ai particulièrement aimé, et Julien aussi a particulièrement aimé, c'est quand on est allé à Universal Studios à Orlando et qu'on était dans les attractions. Ce genre d'attractions-là, c'est un parc d'attractions, là, mais les attractions qu'il y a à Universal Studios, c'est beaucoup avec des écrans. On rentre dans un... comme il y en avait un qui était avec King Kong dans le film. Tu rentres dans le film un peu, dans l'univers du film, et là, on rentrait dans l'autobus de voyageurs, d'autobus d'explorateurs, finalement, qu'on voit dans le film. Et puis, c'est comme un wagon, finalement, de montagne russe, mais tu as des écrans autour de toi qui sont en 3D, en fait. Et tu dois mettre des lunettes pour voir les effets en 3D. Et les effets en 3D font vraiment, vous avez sûrement déjà vécu ça, un cinéma en 3D, mais là, c'est comme un niveau extrême. Et en plus, ça bouge, t'es vraiment amené dans l'action, c'est comme si toi-même t'étais là. Et tu vois vraiment s'il y a un point qui sort de l'écran, tu le vois vraiment dans ton visage, etc. C'est vraiment, vraiment intense. Mais évidemment, en tout cas, moi, je suis quelqu'un d'observateur et d'analytique, alors qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné au courant de ce petit manège, ben à un moment donné, t'enlèves tes lunettes pour voir à quoi ça ressemble sans lunettes. Et voici à quoi ça ressemble, donc notre fameux King Kong. C'est un petit peu moins impressionnant, voyez-vous, il est comme embrouillé. C'est vraiment pas très intéressant, ça fait pas si peur que ça. Alors que si ça avait été avec les lunettes 3D, là, tu l'aurais dans ton visage, là, c'est incroyable, OK? Donc, c'est un petit peu moins impressionnant sans lunettes. Mais c'est un peu ce qui se passe avec la nouvelle naissance. C'est comme si tu n'avais pas les lunettes pour voir le monde tel qu'il est, pour voir Jésus tel qu'il est. Tu ne le vois pas, il y a un voile devant toi. Et la parole nous dit ça aussi. Demande-toi ce matin, vois-tu Jésus et le monde en 2D ou en 3D? Est-ce que tu discernes ce monde spirituel qui dépasse ce que tu peux voir physiquement? Discernes-tu le royaume de Dieu gouverné par des règles de justice et d'amour qu'on a envie de vivre, c'est à l'intérieur de nous? Discernes-tu ton besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui étanche la soif de ton âme? Discernes-tu quelque chose après la mort? Oh, un autre monde après la mort. Vois-tu Jésus et le monde en 2D ou en 3D? Et ma prière, c'est d'arriver à te montrer comment voir le monde en 3D, comment voir le royaume de Dieu. Et Nicodème s'est posé la même question au verset 4. Il dit, comment, ok, tu me parles de nouvelle naissance, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Juste pour vous rassurer, okay, la réponse est non. Donc, les chrétiens, on apprécie la science et la biologie. Donc, non, on ne peut pas rentrer dans le ventre de notre mère ou naître à nouveau, naître vieux à part Benjamin Button. OK? Puis, c'est pas une histoire vraie. J'ai regardé sur Google, puis c'est pas une histoire vraie. Les chrétiens, c'est ça. Et la réponse de Nicodème montre qu'il ne comprend pas, en fait, ce que Jésus veut dire par naître de nouveau. Et je veux souligner ici que l'expression grecque employée ici peut être traduite autant par naître de nouveau ou naître d'en haut. Naître d'en haut, d'où mon titre ce matin. Je vous avoue que j'ai une petite préférence pour naître d'en haut. De toute façon, naître d'en haut voudrait dire aussi naître de nouveau, naître une seconde fois, mais d'en haut. Et c'est ce qui est beau avec la parole de Dieu. Parfois, Dieu inspire des jeux de mots, hein. Dieu inspire des sens, plusieurs sens. Des fois, on n'est pas obligé non plus de faire des choix. On n'est pas obligé de faire des choix tout le temps. C'est ça. Je crois que ça fait partie aussi de la parole de Dieu, finalement. Mais la raison pour laquelle j'ai une préférence pour naître d'en haut, c'est toutes les subtilités dans le reste du texte reliées au lieu, aux différents emplacements. Et on va le voir, on va le découvrir ensemble dans les prochaines minutes. Approuvé par l'exégète. Voilà, voici la réponse de Jésus au verset 5. On continue dans notre texte. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus, en fait, ici, il détaille ce que veut dire naître de nouveau ou naître d'en haut. Naître d'en haut, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Et je vais revenir sur cet élément-là, sur le naître d'eau, dans quelques minutes. Mais Jésus montre bien que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut, ce qui veut dire naître en esprit, naître d'esprit. Jésus fait la distinction entre la naissance physique et humaine et la seconde naissance spirituelle qui est nécessaire pour voir le royaume de Dieu. Et ça, Nicodème, il y a de la misère à voir ces deux différences-là, en fait. Et Jésus continue au verset 8 en disant « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Jésus parle d'un royaume spirituel, donc d'une autre nature que physique. Et un jour, alors que Jésus va revenir, le royaume spirituel va devenir visible. Il va avoir une convergence entre les deux. Mais pour l'instant, nous ne pouvons nous en tenir qu'à ses effets. Jésus utilise l'image du vent pour qu'on comprenne que l'esprit est invisible, mais que nous pouvons voir ses effets. Quand tu regardes le vent, tu sais qu'il y a du vent. On le voit pas, le vent, mais pourquoi tu sais qu'il y a du vent? Tu vois les feuilles bouger dans les arbres, tu sens sa fraîcheur sur ta peau, tu sens le vent, même le bruit, hein, on entend le bruit qui est fort, qui peut être puissant même. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Il en est de même pour le royaume de Dieu. Une personne qui naît d'en haut ne va pas changer physiquement, mais tu vas voir des transformations dans sa vie. Une joie malgré des circonstances difficiles, une paix, un malaise devant le mal et le péché, une compassion pour ceux qui souffrent, une révérence nouvelle devant Dieu, des décisions de vie différentes, des conflits résolus, etc., etc. Et l'Esprit aussi est à l'œuvre en ce moment. Si on se sent interpellé par des messages, touché par les paroles de Jésus, si on a soif d'en apprendre plus sur lui, c'est l'Esprit qui agit. Et je veux qu'on soit plus sensible à l'Esprit, à son effet, pour être capable de voir Dieu agir dans le monde, de voir le royaume de Dieu. On ne voit pas l'Esprit, mais on en perçoit les fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est ce que l'Esprit produit et c'est ce qu'il veut produire en toi si tu nais d'en haut, si tu nais de l'Esprit. Parce que la parole nous dit que quand on est d'en haut, l'Esprit vient habiter en nous. Amen. Le choix de l'expression « naître d'en haut » montre aussi un changement d'identité. Parce que quand tu nais quelque part. OK? Quand tu nais quelque part. Donc, biologie, on est fort, on a dit non, on ne peut pas retourner dans le ventre. Géographie aussi, on est quelque part. C'est bon, on est bon à matin. Ton lieu de naissance joue énormément, en fait, sur ton identité. Si tu es née au Canada, ben, tu es canadienne. Naître d'en haut change ton identité parce que ça change ta citoyenneté. En naissant d'en haut, tu deviens citoyen du royaume de Dieu, citoyen d'en haut. Wow! Celui qui est né de nouveau vit dans ce monde, mais n'appartient plus à ce monde. Sa vraie citoyenneté est au ciel et va s'établir entièrement quand Jésus va revenir une fois pour toutes. Mais après que Jésus a expliqué tout ça à Nicodème, il comprend toujours pas. Il va dire, Nicodème reprit la parole et lui dit au verset 9, « Comment cela peut-il se faire? » Il comprend encore pas, naître d'eau et d'esprit, tout ça. Comment cela peut-il se faire? Et c'est là que Jésus se lance dans un monologue pour expliquer, en fait, comment faire pour naître d'en haut. Et c'est au cœur, en fait, de ce passage qu'on retrouve notre fameux verset Jean 3, 16. On y arrive. Mais on est ici au verset 13. « Personne n'est monté au ciel. » Et là, regardez l'idée des lieux, des endroits qui sont dans le texte. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, quand vous voyez ça dans la parole, c'est vraiment une expression qui est tirée de l'Ancien Testament et ça désigne Jésus. Et si nous voyons que Jésus vient du ciel et est descendu sur la terre et qu'en plus, il a été ressuscité, il retourne au ciel et il va revenir. C'est tellement magnifique, c'est fou. Verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette mention de Moïse, ça fait référence à l'Ancien Testament dans le livre des Nombres au chapitre 21, où le peuple d'Israël est jugé par Dieu parce qu'ils se sont vraiment rebellés contre Dieu. Et Dieu va envoyer des serpents venimeux. Okay? Mais attention, il envoie aussi la solution après, ne vous inquiétez pas. Dieu est bon et gracieux. Donc, le peuple veut finalement trouver le pardon et se repentir. Et Dieu, donc, dit, OK, ben c'est bon, je veux vous pardonner. Donc, Dieu demande à Moïse de forger un serpent en bronze. Et par la suite, toutes les personnes qui ont été piquées par le serpent peuvent regarder le serpent. Et ceux qui regardent le serpent en bronze vont être sauvés, finalement, vont être guéris et ne trouveront pas la mort. Quand même étrange comme histoire. Mais Jésus l'utilise ici pour dire que quiconque croit que Jésus a été élevé sur une croix pour le pardon de ses péchés sera sauvé de la mort et aura la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire. Et là, notre suite au verset 16, écoute-le comme si tu l'avais jamais entendu ce matin. En effet, Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi et moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. L'Évangile en miniature. C'est pas difficile de voir que le monde a besoin d'un sauveur. Il faut faire réfléchir les gens par rapport à ça. Juste en regardant les actualités, 5 minutes, on voit le monde se détruire, les êtres humains entrer en guerre, se déchirer par la violence verbale sur les réseaux sociaux. On voit les inégalités, les changements climatiques. Et tout ça, c'est parce que l'être humain est pécheur et qu'il ne vit pas selon les principes du royaume, les principes d'en haut, en fait. Qui se résume en « aime ton Dieu de tout ton cœur », en plus on l'a cité au début, et « aime ton prochain comme toi-même ». Si chacun faisait ça, c'est impossible que nos actualités soient pareilles. Aujourd'hui, impossible. Ce monde parfait où règne l'harmonie et l'amour, bien, c'était le plan de Dieu depuis le début. Il nous a créés pour qu'on puisse être éternellement à ses côtés dans la paix, dans l'amour, entre l'homme et les femmes, dans l'amour entre nous, dans l'amour avec Dieu, dans l'harmonie. Mais l'homme s'est détourné, ce qui nous a condamnés à la mort, en fait. Et dans notre imperfection, tous nos efforts de réconciliation sont insuffisants. Nos moyens de combler ce vide de Dieu dans notre cœur sont inutiles. C'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui est intervenu pour rétablir sa relation avec nous parce qu'il nous aime. Il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix et ressusciter pour payer le prix de notre péché. Naître d'en haut, c'est croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Jésus, qui vient du ciel, est descendu dans le monde pour nous sauver en étant élevé sur une croix, en ressuscitant, en étant relevé d'entre les morts et en remontant au ciel. Naître d'en haut, c'est croire que Dieu a fait cela afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, afin que quiconque qui est de ce monde mette sa foi en Jésus, naisse d'en haut, devienne citoyen du royaume et ressuscite avec Christ un jour lors de son retour. Si tu es né d'en haut, tu sais où tu vas après la mort. Waouh, quelle espérance! On sait où on va. On va auprès de Jésus dans son royaume qui est venu nous annoncer. Et Jésus a dit ceci au verset 18. « Celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » En d'autres termes, devant ce message, Jésus nous dit que nous avons deux choix. Croire ou ne pas croire. Mais la réalité est exposée ici. La vérité. On ne peut pas rester neutre devant ce message. En fait, ne pas croire, ne pas prendre des décisions pour Jésus, c'est en prendre une. C'est en prendre une. Et comme l'apôtre Paul, je veux dire, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. Amen. Est-ce qu'il y en a qui croient avec moi ce message vieux de 2000 ans? Amen. Lève ta main si tu crois comme moi ce message extraordinaire. Et quand je pensais à ce message, c'est la première fois que j'ai été frappée par cette vérité. Ça fait ça, quand on lit la parole, on la lit depuis des années, mais hop, ça pop. Puis l'autre personne à côté de toi est vraiment pas impressionnée parce que cette personne-là l'avait compris déjà ou elle avait déjà saisi cette observation-là. Ça fait ça, vous savez comme moi. Mais j'ai compris ça, c'est spécial. Le fait que Jésus représente le salut par l'image d'un bébé qui naît montre que la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, spirituelle, ce n'est que le point de départ de la vie chrétienne. On ne reste pas bébé toute notre vie. Chaque personne qui naît spirituellement n'est pas appelée à rester à l'état de bébé, mais à grandir. Et c'est mon deuxième point ce matin que je veux aborder rapidement. Après être né d'en haut, comment grandir? Comment grandir spirituellement? Le premier pas de la naissance spirituelle, en fait, c'est le baptême. Okay, je vous rappelle ce que Jésus a dit à Nicodème au verset 5. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et il y a plusieurs interprétations par rapport à ce verset-là pour essayer de voir qu'est-ce que Jean voulait dire par rapport à l'eau, à l'esprit, etc. Mais la majorité des commentateurs, ils voient au moins l'indice de quoi? Du baptême. Et aussi, c'est spécial parce que tout de suite après ce discours-là, le verset suivant, verset 22, ça dit « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée et il séjourna avec eux et il baptisait. » C'est comme la suite de la mission, finalement. Les dernières paroles de Jésus aux disciples, la grande mission qu'il leur donne et qu'il donne à l'Église aujourd'hui, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » C'est les dernières paroles de Jésus. Lors de la Pentecôte aussi, dans Actes 2, Pierre va se mettre à prêcher à une grande foule. Et voici ce qui se passe finalement à la fin de son discours au verset 37 dans Actes 2. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Être touché par Dieu, se repentir, demander pardon, naître de nouveau, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, ça va tout ensemble. Ça va tout ensemble. Le baptême ne sauve pas, c'est seulement, vous le savez comme moi, seulement par la grâce de Dieu, par le moyen de notre foi en Jésus-Christ, qu'on est sauvé. Mais le baptême, c'est la conséquence, c'est les prémices, le premier fruit finalement de notre conversion. Le baptême permet de montrer publiquement et physiquement la nouvelle naissance intérieure et spirituelle. Parce que je vous rappelle encore une fois, l'œuvre de l'Esprit, c'est comme le vent, invisible, mais visible par ses effets et ses fruits. Et le baptême, c'est le fruit visible d'une naissance invisible. Ou, en d'autres termes, le baptême, c'est comme un shower de bébé. Okay? On célèbre ensemble un enfant qui est venu au monde, ben, avant, mais bon, bref, vous comprenez l'idée. Oh, c'est vrai. Et je veux souligner quelque chose de vraiment intéressant aussi avec ce passage. Lisons ensemble les versets 19 à 21. C'est de cette façon-là que Jésus termine tout le passage avec Nicodème, avec sa conversation avec lui. « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Ici, Jésus fait un contraste entre la lumière et les ténèbres. Et c'est vraiment ce qui conclut toute sa discussion. Est-ce que quelqu'un se rappelle à quel moment de la journée Nicodème est allé voir Jésus?
La nuit.
La nuit. Ça, c'est des petites subtilités dans le texte. C'est vraiment pas des hasards. La nuit, il fait noir, OK? On ne voit pas. C'est pas pour rien que tout ce passage-là est encadré par cette idée de contraste entre lumière et ténèbres. Et Nicodème est mentionné deux autres fois dans l'Évangile de Jean. On remarque par contre qu'il s'attache de plus en plus à Jésus. La deuxième fois que Nicodème est mentionné, c'est à la fin du chapitre 7. On est bon en biologie, en géographie, mais moins en maths. on l'a étudié en plus ensemble la semaine passée, tout le chapitre 7. Vous allez avoir vu une bonne partie de l'Évangile de Jean quand même, chapitre 3, chapitre 7, plusieurs autres. On voyait justement que la vie de Jésus commençait à être vraiment menacée parce que les autorités religieuses voulaient l'arrêter. Et c'est dans ce contexte-là que Nicodème va dire, c'est la deuxième fois qu'on voit Nicodème, il va dire ceci devant les autres chefs. Il va dire « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Parmi les chefs, ils cherchent donc à laisser à Jésus le bénéfice du doute. Donc on voit, OK, il y a quelque chose, il se passe quelque chose à l'intérieur de Nicodème. Et la dernière fois qu'il est mentionné est au chapitre 19. Et ça, c'est encore plus poignant. Nicodème va être un des deux hommes qui vont s'occuper du corps de Jésus quand il va être décédé. Ils vont aller le chercher au tombeau. Il y a vraiment une progression dans son attachement à Jésus. Par contre, savez-vous quelle caractéristique revient ces deux fois-là où Nicodème est mentionné? Peut-être pas. On y va. Chapitre 7, verset 50. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Verset 19, 39. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint lui aussi. L'homme qui était allé trouver Jésus de nuit. C'est la caractéristique ici qui distingue Nicodème. Et en plus, OK, voici qui l'accompagnait au tombeau, au verset 8, dans chapitre 19. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Quelle caractéristique voudrais-tu que Jean écrive à ton sujet en tant que disciple de Jésus? Celui qui va voir Jésus de nuit pour ne pas être vu des autres. Celui qui le fait en secret par crainte de jugement des autres. Ou celui qui vient à la lumière publiquement, qui annonce haut et fort sa foi en Jésus. Je veux encourager tous ceux qui ne se sont jamais fait baptiser en tant qu'adultes, ceux qui n'ont jamais pris la décision personnelle et consciente de dire publiquement qu'ils suivaient Jésus à le faire. Et je vais vous dire justement comment le faire dans quelques minutes. Mais pour ceux qui ont déjà fait ce premier pas avec leur baptême, je veux vous encourager à continuer de grandir. On ne reste pas bébé. Continuez de croître toujours davantage dans votre vie spirituelle. Jésus a dit à Nicodème au verset 12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je parle des réalités célestes? » En d'autres termes, Nicodème, je te parle de la nouvelle naissance, tu comprends même pas comment est-ce que je vais pouvoir t'enseigner toutes les autres belles choses, toutes les autres richesses que j'ai pour toi. Jésus a toujours plus pour nous, en fait. C'est nous-mêmes qui le limitons par nos occupations, nos péchés, nos priorités, par toutes sortes de choses. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » D'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez pas parce que vous êtes encore animé par votre nature. Et dans le même sens, on a l'auteur aux Hébreux qui dit ceci, « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. » Oh non, on veut pas ça, nous, dans Charlevoix, à devenir lents à comprendre. « Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. » Mais la nature solide est pour les adultes et pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand même assez clair comme passage, je ne le commente même pas, c'est vraiment bien expliqué. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Mais j'aimerais qu'on fasse cet exercice, et c'est drôle parce qu'il parle vraiment de régime finalement alimentaire, par rapport à la croissance, en fait, au petit bébé et au fait de devenir adulte. Et je veux vraiment vous encourager, nous encourager chacun d'entre nous à regarder, à faire un état. On est en nutrition en plus aujourd'hui, c'est merveilleux. Faire état de notre régime alimentaire spirituel. Est-ce que tu manges encore seulement de la purée pour bébé? Bon, il y en a qui aiment un peu ça des fois, là, mais spirituellement, tu ne devrais pas aimer ça trop longtemps, OK? Et c'est important de respecter là où tu en es aussi. Ça prend du temps de la croissance, ça prend de l'expérience, ça prend de vivre des expériences avec Dieu. Donc, c'est normal, faut pas se mettre de pression, mais évalue, demande à l'Esprit qui te dise, OK, là, il est temps que tu passes à un autre appel. Est-ce que tu es juste à la purée de bébé ou tu peux commencer à intégrer... Hein, un bébé, qu'est-ce qu'on fait? On intègre tranquillement des choses. On ne lui donne pas du beurre d'arachide puis du popcorn. Ça, je sais que c'est pas bon, je pense, pour les enfants. Avec mes faibles connaissances. Donc, demande-toi, est-ce que tu es encore à la purée de bébé ou tu es capable de prendre de la nourriture solide tranquillement, tranquillement, progressivement? Et voici, sur le plan vraiment concret, une liste non exhaustive, donc on peut ajouter bien des choses à cette liste, mais des choses que tu pourrais faire si tu veux passer à une prochaine étape dans ta vie chrétienne. Premièrement, se laisser diriger davantage par l'Esprit et non notre propre nature. Choisir de marcher par l'Esprit, c'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Approfondir ta connaissance de la parole, c'est ce qui est dit dans les livres aux Hébreux, approfondir ta connaissance de la parole, peut-être en prenant un cours biblique, peut-être en lisant davantage ta Bible, en posant des questions. Demander des rencontres pastorales pour avoir du soutien ou des conseils dans un certain domaine de ta vie. Julien et moi, on est là pour ça, et d'autres personnes aussi. De trouver un ami à qui tu peux être redevable pour vivre tes défis. Parler de Jésus à ton entourage. Participer à un petit groupe de prière à l'automne. T'impliquer pour le royaume en prenant des responsabilités dans l'Église. Ou simplement persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Okay? Sois encouragé ce matin à persévérer. Parce qu'une des façons que Dieu nous fait grandir, c'est justement c'est sur le temps qui s'apprend, finalement. C'est lorsqu'on est fidèle, sur une longue période de temps, fidèle à traverser toutes sortes de saisons. Des saisons d'épreuve, d'attente, des saisons de victoire, des saisons de sécheresse, de questionnement, de doute, de difficulté, de joie. Dieu veut te faire grandir à travers toutes tes saisons. Parfois, la seule chose que ça nous prend pour grandir, pour croître, bien, c'est du temps en étant attentif, en étant fidèle, du temps en restant attaché et fidèle à Dieu. Donc, levons-nous ensemble. Je veux qu'on prenne ce temps pendant qu'on va chanter. On chante la chanson de. On va chanter, en fait, ce matin, on va chanter Jean 3,16. C'est drôle, on avait un chant, on l'a fait aussi la semaine dernière. On va chanter Jean 3,16 et je veux vous encourager pendant ce moment à vraiment prendre le temps de réfléchir à votre régime spirituel, votre régime alimentaire spirituel, où tu en es et qu'est-ce que Jésus te demande. Et il va le faire par son esprit, il va t'indiquer des choses peut-être à mettre en place dans ta vie. Et c'est peut-être le baptême. Va t'inscrire à l'espace bienvenue si tu n'es pas baptisé. On va prendre le temps de donner la nourriture, la petite purée, l'ABC de la foi. Et après, fais-toi baptiser. C'est la première étape. Si tu crois, fais-toi baptiser. C'est pas plus compliqué.